Je vais donc vous parler de la chevauchée du loup-garou, c'est-à-dire de l'histoire du loup-garou, depuis l'Antiquité jusqu'à la fin du XIXe siècle. Quand je dis fin du XIXe siècle, c'est que on y croit encore plus ou moins. Mais en tout cas, à cette époque-là, durant tout le XIXe, on collecte énormément d'histoires de loup-garou, mais j'y reviendrai. L'histoire du loup-garou, en fait, elle commence dans la Grèce antique. Et c'est le poète latin Ovide qui, dans un livre que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « Les Métamorphoses », va, au 1er siècle, donc, raconter l'histoire du roi Lycaon. Alors, cette histoire, la voici. Jupiter, en fait, en avait ras-le-bol des humains. Mais alors, franchement, ras-le-bol. Et donc, il les trouvait violents, il les trouvait sanguinaires, il les trouvait irrespectueux vis-à-vis des dieux. Et donc, il se dit, finalement, les humains ne sont pas mieux que la race des géants qui les a précédés. Et le mieux, c'est de les éliminer tous. Et vous le savez, quand les dieux veulent éliminer les humains, ils ont un procédé radical, pratique, ça s'appelle le déluge. Le dieu Enlil, déjà en Mésopotamie, avait éliminé complètement la race humaine parce que, en fait, avait déclenché un déluge. Il n'y avait pas tous éliminés, il en restait un. Avait éliminé les humains parce qu'en fait, ils faisaient trop de bruit et ils dérangeaient les dieux. Et donc, on avait décidé de s'en débarrasser. Ben là, c'est pareil. Jupiter, il dit, allez hop, déluge, et on va se débarrasser des humains. Alors, avant d'en arriver là, il réunit le conseil des dieux et il leur fait un état des lieux. Il leur dit, ben voilà, les humains sont pas terribles. Et d'ailleurs, je vais vous raconter l'histoire, ce qui m'est arrivé lorsque je suis allée en Arcadie. Vous m'entendez? Parce que moi, je ne m'entends absolument pas. C'est bon? Ah, c'est bon là? Il faut que je tienne comme ça. Et donc, il raconte qu'il a pris une apparence humaine et qu'il est allé en Arcadie, il est descendu sur Terre. Et il a rencontré là des premiers paysans. Les premiers paysans l'ont abordé et il leur a dit, je suis le dieu des dieux, le dieu du ciel, de la terre, je suis Jupiter. Ça va pas, il faut que je sois comme ça. D'accord. Je suis Jupiter. Et donc, du coup, je ne sais plus où j'en suis. Ah oui. Et donc, les hommes l'ont loué. Vraiment, se sont très, très bien comportés avec lui. Donc, Jupiter se dit, oh bah mince, finalement, ils ne sont pas si mal que ça. Sauf que, il y en a un qui regardait ça de très loin et qui... prenait ce type-là qui se prétendait Jupiter pour un imposteur parce qu'il ne croyait plus aux dieux, c'était le roi Lycaon. Donc le roi Lycaon invite ce soi-disant dieu chez lui et puis pendant la nuit, il envoie quelqu'un pour le tuer, pour le poignarder. Évidemment, vous en doutez, on ne tue pas un dieu comme ça, donc ça ne marche pas. Donc Lycaon est furieux, il fait venir un esclave, il le fait couper en deux, il fait bouillir une moitié, il fait rôtir l'autre moitié et il amène tout ça sur la table de cet individu qui se prétend le dieu. Et là, Jupiter rentre dans une colère absolument terrifiante. Il déclenche la foudre, il fait écrouler tout le palais du roi Lycaon et pour le coup, il est chiant ce micro-là. Faut que je tienne comme ça. Et pour le coup, le roi s'enfuit dans la forêt, il se met à courir, il se nourrit de sang, il se nourrit de proies, et tout d'un coup, il sent des poils qui poussent. Un, deux, vous m'entendez? Ah, c'est mieux? Bon. Et donc, il sent... Et là, je peux le mettre comme ça, ça va? Il sent donc des poils lui pousser, etc. Il devient loup. C'est le premier loup-garou. Ainsi va naître ce qu'on appelle la lycanthropie du roi Lycaon. Et la lycanthropie qui veut dire transformation de l'homme. Lycos, le loup, anthropos, l'homme. Voilà, la transformation de l'homme-loup. Alors, l'histoire aurait pu en rester là. avec notre homme loup, mais ce ne fut pas le cas. Et donc là, on va prendre nos bottes de sept lieues et puis on va arriver au Moyen-Âge. Et on va arriver au XIIe siècle. Dans cette Bretagne, qu'on dit la petite Bretagne, pour la différencier de la grande Bretagne, où se trouve un roi, qui est le roi Henri II Plantagenet, qui est un roi au XIIe siècle, qui est un roi absolument formidable, parce que c'est un roi mécène. Alors, les historiens, Le Goff en particulier, disaient que le XIIe siècle, c'est en fait, il l'appelait la petite Renaissance. Le XIIe siècle, c'est une époque très très importante, à mon sens beaucoup plus que le XVIe ou le XVIIe. C'est une époque magnifique où, on va dire, la christianisation des peuples est en très bonne voie, c'est-à-dire que bon, ça y est, on a fait des anciens dieux des démons, on a mis des églises là où il y avait des temples, on a appelé les fontaines, les arbres sacrés d'un nom de saint, bon voilà, on a fait le job, et donc on a moins peur d'un regain du paganisme, parce que jusqu'au XIIe siècle, dans les campagnes, le paganisme, enfin c'est pas gagné hein, pour les évêques et pour les évangélisateurs. Donc là, au XIIe siècle, dans l'Europe, on est à peu près bon. Et donc, du coup, on n'a plus peur de traduire les poètes latins. On ne va pas avoir peur de traduire les Eddas, par exemple. On ne va pas avoir peur de traduire tous ces textes mythologiques. Ce sont les clercs, bien sûr, les religieux qui vont les traduire, donc ils vont y mettre leurs pattes. Mais voilà, tout ça arrive. Et donc, dans cette cour, il y a une femme, une poétesse, qu'on appelle Marie de France. Et cette Marie de France, elle dit, d'ailleurs elle le dit en introduction de ce qu'on appelle ses lais, L-A-I-S, qui sont des poèmes, des histoires en vers, qui étaient chantées. Elle dit, bon voilà, il est de coutume de traduire les poètes latins, mais moi je ne vais pas faire ça. Moi, je vais écrire toutes ces chansons, tous ces lais, dit-elle, que j'ai entendus dans mon enfance. Et je vais les... Voilà, c'est ça que je veux donner. Et donc, elle va donc publier, on peut appeler ça comme ça, au XIIe siècle. Évidemment, il n'y a pas d'édition. Et donc, voilà, donc on va avoir ces lais de Marie de France. Et dans un des lais de Marie de France, un de ces lais s'appelle le lait du bisclavré. Alors, qu'est-ce que c'est que le bisclavré? Eh bien, Marie de France nous l'explique. Le bisclavré, c'est ce qu'on appelle chez les Allemands le garouaf, donc le garou. Et donc, elle va nous raconter son histoire. Que voici. Attendez, je regarde si j'ai pas loupé un épisode. Hop. Ah oui, j'avais noté que ce garouaf venait de l'ancien allemand. Alors, je ne suis pas du tout germaniste, hein, donc je vais le dire comme je le sens, hein, avec mon accent du sud, werewolf, qui veut dire homme-loup. Donc, ce qui veut dire que quand on dit loup-garou, en fait, on dit loup-loup-garou, puisque garou, ça veut déjà dire homme-loup. Voilà. Et c'est pourquoi on va retrouver aussi dans l'histoire, dans les récits, beaucoup de récits de garous qui, d'ailleurs, ne sont pas des loups. Donc on va trouver des chats garous, des renards garous, et des gens vont être condamnés au bûcher pour avoir été transformés en chat garou ou en renard garou. On rigole pas avec ça hein, au XVIIe siècle et au XVIe siècle. Alors, donc venons-en à notre histoire de Marie de France. Donc nous sommes en Bretagne, il y a un chevalier... Tout le monde l'aime, il est courageux, bienveillant, avec ses sujets, etc. Voilà. Sa femme l'aime aussi, mais elle est inquiète, sa femme. Elle est inquiète parce que, toutes les semaines, il s'absente pendant 3 jours, et elle ne sait pas où il va. Toutes les semaines, il s'absente pendant 3 jours, et durant ces 3 jours, elle ne sait pas où il va. C'est un grand week-end. Et donc, j'irai vérifier le texte parce que c'est vrai que ça fait beaucoup, mais non, c'est 3 jours par semaine. Hein. Bon, bref, tout d'un coup, là, ça me. Et donc, un jour, quand même, elle lui pose la question et donc elle lui dit, bon ben voilà, mais qu'est-ce que tu fais pendant 3 jours par semaine? Et il lui répond, je peux pas te le dire. C'est trop dangereux, je ne peux pas te le dire. Évidemment, vous connaissez les femmes. Je fais exprès, oui, oui. Elle insiste. Et puis, elle finit par obtenir ce qu'elle n'attendait pas forcément, d'ailleurs. Et il lui dit, non, mais je ne vais pas voir une autre femme du tout. Parce qu'elle croyait qu'en fait, c'était le cas. Je ne vais pas voir une autre femme du tout, mais il se trouve que je... Voilà, 3 jours par semaine, je suis obligée d'aller courir dans les bois, courir le garou. Courir le garou ? Elle dit, mais comment tu fais ? Tu gardes tes vêtements ? Il dit, non, je suis obligée de courir nue. Ah, et comment tu vis ? Je vis de proies que je ramasse, je vis... voilà. Ah. Mais qu'est-ce que tu en fais de tes vêtements ? Il dit, ça je ne peux pas te le dire. Ça, je ne peux pas te le dire parce que là, pour le coup, si je perdais mes vêtements, je ne pourrais pas retrouver mon apparence humaine. Elle le tarabuste, machin, allez, où tu mets tes vêtements. Et bon, il finit par lui dire, tu vois, derrière chez nous, là, il y a un petit bois. Dans ce petit bois, il y a une chapelle. Près de cette chapelle, il y a un buisson. Dans ce buisson, il y a une grosse pierre creuse. Eh bien, c'est dans le creux de cette pierre que je cache mes vêtements. Alors la femme a obtenu des réponses à ces questions, mais du coup elle est de plus en plus inquiète. Elle se dit, elle refuse de dormir à côté de lui, elle a peur, et il se trouve qu'il y a un seigneur des environs qui lui fait la cour depuis assez longtemps. Donc bon, jusque-là elle n'y avait pas trop prêté attention, mais là elle se dit qu'au bout du compte, ça serait peut-être pas mal si... si elle organisait quelque chose avec lui. Donc elle le fait venir, elle répond à ses avances et elle lui raconte toute l'histoire. Et elle lui dit, voilà, là sont ses vêtements, il faut aller les chercher, tu me les rapportes, je les cache et vogue la galère. Évidemment, il le fait et le pauvre chevalier ne peut plus retrouver forme humaine. Donc on le cherche pendant des semaines, on le cherche pendant des mois, le roi qu'il aime beaucoup est vraiment désolé, et puis on finit par conclure qu'il est parti loin, qu'il est peut-être mort, bref, il ne reviendra plus. La femme se marie avec le seigneur, et voilà, la vie continue. La vie continue jusqu'au jour où, un an plus tard, le roi décide d'aller chasser avec ses gardes dans le petit bois. Et puis arrivé dans le petit bois, tout d'un coup, il y a les chiens de chasse qui se mettent à aboyer et à poursuivre un loup. Et donc ce loup vient se réfugier près du roi et lui lèche la botte, les éperons, tout ça. Donc le roi fait arrêter les chiens et il dit, mais regardez, ce loup est vraiment très gentil, il ne faut pas lui donner la chasse, et on rentre. Et il décide de rentrer. Il rentre, mais le loup le suit et le loup ne le quitte plus. Et ce loup, qui est tellement gentil avec lui, il le garde toujours près de lui. Et personne n'a de problème au château, ni les valets, ni les gardes, avec ce loup qui est vraiment fort affable. Mais un jour, il se trouve que arrive au château le fameux baron qui avait épousé la femme du chevalier. Et là, le loup se met à grogner, il se passe quelque chose, il veut attaquer le gars, donc on l'enferme. Il y a des gens qui disent, mais regardez, il est dangereux, il faudrait peut-être le tuer. Non, on ne peut pas le tuer, dit le roi. Il y a un truc qui ne va pas avec ce loup, mais on ne sait pas trop quoi. Bon, la vie continue. Et puis un jour, le roi décide de retourner dans le petit bois, parce qu'il y a un sage qui lui dit... Vous savez, sire, il se passe un truc avec ce loup. Vous devriez retourner là où vous l'avez trouvé, parce qu'il ne faut pas lui faire de mal à ce loup. Il se pourrait bien que ce soit une métamorphose. Il y a un truc. Donc, il retourne dans le petit bois avec le loup. Et puis, bon, il y passe la journée. Et puis, il décide de dormir sur place dans un palais, dans le palais du chevalier, c'est pas très bien précisé, mais enfin on suppose que c'est là. Et la femme du chevalier, donc du chevalier Bisclavret, du loup-garou, est là. Et comme elle veut se faire bien voir auprès du roi, elle lui amène des cadeaux, des oh là là, regardez, c'est beau ce que je vous amène et tout ça. Et quand le loup la voit, il lui saute dessus, il lui mange le nez. Et donc là, tout le monde dit, mais faut tuer ce loup, faut tuer ce loup. Et le sage qui est là dit, faites parler la femme, il se passe quelque chose. On attrape la femme, on la torture un peu, c'était la mode à l'époque. On la fait parler et elle avoue tout. On va chercher évidemment les vêtements. Elle dit où ils sont et donc on amène les vêtements du chevalier. Il se met à part dans une pièce, il se vêt et immédiatement, il reprend forme humaine et tout est rentré dans l'ordre. La femme et son nouveau mari sont expulsés du royaume et l'histoire se termine en disant qu'ils ont eu beaucoup d'enfants mais que leur fille n'avait pas de nez et que leur garçon avait une attitude un peu bizarre, féroce, etc. Donc voilà cette histoire du Bisclavret que nous livre au XIIe siècle Marie de France, histoire qu'elle a entendue raconter dans sa jeunesse. Alors, on a donc, grâce à Ovide, un homme loup par punition. On retrouve au Moyen-Âge cet homme sauvage dont on ne sait pas très bien s'il est puni, pas puni, si c'est une sauvagerie naturelle, comment cette histoire a été transformée, parce qu'il y a là vraisemblablement, on en parlera, enfin, un rite beaucoup plus ancien. Et on a d'autres témoignages, on est assez pauvre au Moyen-Âge hein, pour tout ce qui est texte, parce que bon, on a très très peu d'écrits qui parlent véritablement du peuple. Et donc il y en a un livre qui s'appelle le livre des quenouilles ou les évangiles des quenouilles au XVe siècle, et ce sont des femmes qui se retrouvent pendant sept jours, tous les soirs, une semaine, pour filer et qui racontent leurs évangiles. Alors, leurs évangiles, c'est des toutes petites phrases, des toutes petites où elles racontent des superstitions, des choses du quotidien. Voilà. Et à plusieurs reprises, elles parlent du garou et de leurs hommes qui se transforment en garou, donc trois siècles plus tard. Alors, je vais vous donner quelques exemples de leurs textes. Voilà, donc une femme prit la parole et dit « Parlons de ces levarous. » Ça, c'était en ancien français, donc de ces loups-varous, de ces loups-garous. « Si dangereux lorsqu'ils se montrent. Après ces 36 ans, j'ai soupçonné mon mari d'en être un. Cela m'a fait perdre main beau somme. Je ne sais qu'en penser et n'ai trouvé qu'un seul remède, mon chat, qui va par nuit en amour, car il me défend contre un tel péril et se met au devant d'eux et à toute heure défend son ami. » C'est-à-dire que ces femmes qui parlent de leur mari garou, elles en parlent comme du reste, de la lessive, du machin, tout ça, c'est-à-dire qu'elles se donnent des conseils. Et là, ces textes d'évangile sont des conseils pour pouvoir échapper à leur garou. Alors un autre conseil d'une autre commère qui explique « J'ai entendu raconter par une de mes parentes qu'elle soupçonnait son mari d'être levarou, loup-garou. Mais par conseil, sitôt qu'il était nuit, elle traînait son lacet et son tablier sur la terre derrière elle et ainsi ne pouvait pas être approchée. Cela n'est point mauvais, dit une troisième, car c'est éprouvé. Mais il faut aussi avoir de la chandelle bénite sur vous et la tenir dans la main sans l'allumer et incontinent, il fuira et cherchera autre part son aventure. J'ai entendu dire, dit une autre vieille, par une mienne voisine, qu'elle soupçonnait son mari d'être levarou, car elle le perdait souvent en hiver, entre Noël et la Chandeleur. On retrouvera au XIXe siècle cette période, qui est une période assez magique, où il se passe beaucoup de choses étranges, entre Noël et la Chandeleur. Un soir, elle partit de sa maison, en traînant son tablier après elle, et le lendemain, elle vit entre ses dents des morceaux du fil du dit tablier, que le matin, elle avait trouvé déchiré en tous sens. En guise de conclusion, ajouta une femme, si un homme a une telle destinée d'être varou, son fils tiendra de lui et le sera aussi. Donc on a dans ces textes à la fois des conseils pour se garder, en fait, pour se faire un périmètre de protection autour du garou. On a aussi un autre élément, c'est-à-dire qu'on est toujours dans une croyance très païenne, qui est non lié à la sorcellerie, parce que le garou, après, va devenir une métamorphose de sorcier. Et on a aussi cette question d'hérédité de mal en mal, qui en fait une espèce de personne apte à la sauvagerie du loup. Alors, tout change. Tout change avec les démonologues, avec l'apparition du diable qui va rentrer en scène. Le diable, il rentre en scène de façon assez progressive. La sorcellerie, les sorcières, on les a toujours connues dans l'Antiquité grecque, dans l'Antiquité romaine. On a de la sorcellerie. En fait, c'est de la magie, tout simplement. C'est-à-dire qu'il est très difficile de différencier la sorcellerie de la magie. La magie est une magie publique. C'est-à-dire, c'est la magie, par exemple, de Rome, c'est une magie publique avec ses rites, etc. La sorcellerie est plus une magie privée, voilà, où chacun chez soi fait sa tambouille. Voilà, si on devait faire une distinction entre magie et sorcellerie, c'est celle-ci que l'on pourrait faire. Alors, tout va basculer parce que il va y avoir, allez, on dirait aujourd'hui une crise. Non, il va y avoir de la famine, il va y avoir la grande peste, il va y avoir des guerres, il va y avoir, tant et si bien que à partir du XIVe siècle et XVe siècle, tout va mal et il va falloir trouver un responsable. Quand tout va mal, il faut toujours un responsable. Et la peur est terrible parce que du coup, ce responsable, ça va être... les femmes, pour la plupart, les sorcières, celles qui sont restées là et qui ont occupé le pouvoir pendant que les hommes étaient à la guerre, celles qui accouchent les enfants, celles qui font peur finalement à l'Église, celles aussi qui sont là et qui dérangent les nouveaux apprentis médecins qui arrivent, parce qu'on est au début aussi de la Renaissance et des sciences médicales et tout ça. Et donc... en fait, si tout va mal, ça veut dire que Dieu n'est pas content. Voilà, on est dans une France, on est dans une Europe chrétienne. Donc si tout va mal, ça veut dire que Dieu n'est pas content. Si Dieu n'est pas content, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont pas bien. Et les gens qui sont pas bien, ça ne peut être que ceux qui ne croient pas en Dieu. Ceux qui ne croient pas en Dieu, ce sont des hérétiques. Et les sorciers et les sorcières sont des hérétiques. Et c'est le premier crime qu'on va... et même le principal crime qui va leur être imputé, c'est l'hérésie. Ils sont hérétiques. C'est la raison pour laquelle ils seront brûlés, parce que c'est la double peine. On brûle, et en plus, on empêche, au jour du jugement dernier, on empêche la personne de revenir encore, comme paraît-il pour eux. Donc, il dit, ce sera le cas. Voilà. Donc, une recorporation. Donc, du coup, c'est vraiment double peine, le bûcher. Et voilà. Donc, il y a ces, et là, il va falloir trouver des preuves de la sorcellerie. Donc, on va mettre toute une liste de crimes, etc. Et au 15e siècle, au 16e siècle, arrivent ce qu'on appelle les démonologues, c'est-à-dire qui sont des juges ou des juristes, comme Jean Bodin, qui est un juriste, un grand juriste, qui vont s'intéresser à ça et qui vont établir des lois contre, justement, les sorcières. De 16e, 17e siècle, ce sont plusieurs centaines de milliers de personnes, femmes surtout et hommes, qui seront condamnées au bûcher en Europe. Et sachant que l'Inquisition espagnole fera moins de morts que l'Inquisition en France, qui était menée par des tribunaux civils et non religieux, alors qu'en Espagne, c'était des religieux. Ceci dit, en Espagne, ce sont les Juifs qui, pour beaucoup, vont faire aussi être les martyrs de cette époque. Voilà. Inquisition qui est une, a priori, qui est une bonne chose. On est toujours aujourd'hui dans une justice de l'Inquisition. Inquisition, ça veut dire enquête. Donc on passait d'une justice du jugement de Dieu, de Lord Ali. Allez, on le trempe dans l'eau, s'il ressort, c'est qu'il est coupable, ou si, voilà, c'est Dieu qui décide, à une justice où, en principe, on enquête. Inquisition. Sauf que la torture rajoutée là-dessus, ça le fait plus vraiment, quoi. Voilà, c'est plus vraiment ça. Alors, j'ai pris quelques textes pour vous donner des exemples. J'ai pris deux textes de Jean Bodin, justement, de son livre « La démonomanie des sorciers », qui est publié en 1580, la première édition. Et un autre, Henri Boguet, qui est juge au comté de Bourgogne et qui a écrit « Le discours exécrable des sorciers » en 1603. Alors, voilà ce que dit... voilà ce que raconte Bodin, par exemple. En décembre 1521, à Besançon, Pierre Burgot et Michel Verdun confessèrent avoir renoncé à Dieu et juré de servir le diable. Et Michel Verdun mena Burgot au bord du Chastel Charlon, où chacun avait une chandelle de cire verte qui faisait la flamme bleue et obscure et faisait les danses et sacrifices du diable, le fameux sabbat. Puis après s'étant oint, furent retournés en loups, courant d'une légèreté incroyable, puis ils s'étaient changés en hommes, et soudain rechangés en loups, et couplés avec des louves avec le même plaisir qu'avec les femmes. Ils confessèrent aussi, à savoir, Burgot avoir tué un jeune garçon de 7 ans avec ses pattes et dents de loup, et qu'il le voulait manger, mais les paysans lui donnèrent la chasse. Et que tous deux avaient mangé 4 jeunes filles, et qu'en touchant d'une poudre, ils faisaient mourir des personnes. Voilà ce qu'on leur faisait avouer sur la torture, pour pouvoir après les tuer. Alors un autre exemple de Bodin qui donne un arrêt du Parlement de Dôle, dans le Jura, un arrêt de 1583, d'un loup-garou qui est très connu, Gilles Garnier, dont vous pourrez voir d'ailleurs... une émission de un reportage de télé sur RMC Découverte, la saison 2. Celui-là est déjà enregistré et je ne sais pas quand est-ce que la saison, parce que le reste va être enregistré en juin. C'est une émission qui s'appelle La France des mystères, etc. Donc là, on est sur la saison 2. Et donc, il y a un épisode sur le loup-garou où ils sont allés retrouver le coup dans le coin, etc. Voilà. À mon avis, c'est pour la rentrée, parce qu'on finit les enregistrements en juin. Elle reprend. Donc, Gilles Garnier, jugé et condamné par le Parlement de Dôle, étant en forme de loup-garou, prit une jeune fille à l'âge de 10 à 12 ans, près le bois de la Serre, en une vigne, au vignoble de Chastenois, etc. Et il l'avait tuée, et oxyse, tant avec ses mains semblant pattes qu'avec ses dents, et mangé la chair des cuisses et bras d'icelle, et en avait porté à sa femme, partageur. Et pour avoir en même forme, un mois après, pris une autre fille et l'avoir tuée pour la manger, s'il n'avait pas été empêché par 3 personnes, comme il l'a confessé. Et 15 jours après, avoir étranglé un jeune enfant de 10 ans au vignoble de Grésidan, de Grédisan, pardon, et mangé la chair des cuisses, jambes et ventre, dit celui, et pour avoir en forme d'homme et non de loup, tué un autre garçon de l'âge de 12 ans à 13 ans au bois du village, etc. Il fut condamné à être brûlé vif et l'arrêt fut exécuté. Un autre exemple donc du juge Henri Boguet de Bourgogne qui explique en juin 1598 à Saint-Claude dans le Jura, on juge plusieurs sorcières et sorciers. 4 d'entre eux avouent sous la torture s'être changés en loup-garou et avoir tué des enfants. En fait, 97, rien que pour l'année 1500 et quelques, rien que pour l'année 97, qui est bizarre quand même. Ils confessent aussi qu'ils ont mangé une partie des enfants, mais qu'ils ne touchaient jamais au côté droit. Le tribunal procéda à des vérifications et constata que ces enfants avaient bien été pris et tués par des loups. 2 autres sorciers, un père et son fils, reconnurent qu'ils s'étaient eux aussi transformés en loups, mais qu'il n'avait égorgé que des chèvres. Bon, ça va, ça. Voilà, donc vous voyez que entre l'histoire du roi Lycaon,
que je vous ai raconté au 1er siècle d'Ovide, l'histoire du lait de Marie de France au 12e siècle. Et là, cette démonologie, cette inquisition qui arrive au 16e et 17e siècle, on est passé d'hommes sauvages, pas très dangereux, on s'en protège, mais c'est bon, voilà, c'est pas très dangereux. On est passé de ça à, tout d'un coup, quelque chose de beaucoup plus religieux, de beaucoup plus, c'est-à-dire les suppôts du diable, puisque le diable lui-même, on le dit à l'époque, sait se transformer absolument en tout. Il peut même se transformer en saint, il peut même se transformer en Dieu s'il le veut, et il se transforme bien entendu en loup aussi. Alors, au XVIIIe siècle, donc on continue à passer les siècles pour voir comment va se transformer. Au XVIIIe siècle, c'est fini. Les sorciers, on n'en a plus peur, les loups-garous, on commence à les détacher de la sorcellerie, mais pas complètement de l'hérésie, parce que on a des témoignages en Normandie et en Vendée, et ça existait probablement ailleurs, même si on n'a pas de texte, de ce qu'on appelle des monitoires. Alors, qu'est-ce qu'un monitoire ? Eh bien, lorsqu'il s'est produit dans un village un délit, un crime, et que on n'a pas trouvé le coupable, le voleur, le criminel, le meurtrier, et que personne, qu'aucun témoin ne vient pour aider à les retrouver, on finit par déclarer un monitoire. C'est-à-dire que le curé, à la messe du dimanche, et trois messes de suite, demande aux gens de venir se dénoncer ou aux témoins de dénoncer les auteurs du délit. S'ils ne le font pas, ils sont menacés d'une excommunication majeure et donc condamnés à errer en loup-garou. On est là au XVIIIe siècle. Ces monitoires, le dernier, je crois, était en 1780. Je vais regarder mes notes, je ne me rappelle plus exactement. Oui, fin du XVIIIe siècle. Bon, ben, je ne sais pas. Et donc, on va avoir différentes histoires qui ne sont pas vraiment des... qui sont ni des contes, ni des témoignages, qui sont... ce qu'on appelle, j'en parlais hier, désolé pour ceux qui étaient là hier, ce qu'on appelle des mémoras, c'est-à-dire que dans les histoires qu'on raconte à la veillée, il y a à la fois des contes, des chansons, des machins, et puis il y a aussi ce que nous appelons, nous, des mémoras, c'est-à-dire des mémoires du genre, ah ben, Madame Intel, elle raconte que sa grand-mère, qui était machin, a vu un truc, etc. Et voilà, l'histoire se rapporte comme ça, des fois se déforme. Et donc, on retrouve, en Normandie en particulier, on relève, à la fin du XIXe siècle, des histoires, en particulier une histoire à Gréville, où un homme a été déclaré et vu varou, parce qu'en Normandie, on l'appelle le varou, a été varou, et où il a été... voilà, il pouvait être délivré si on faisait jaillir son sang, et surtout au milieu du front. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans de nombreux récits au XIXe siècle, parce qu'au XIXe siècle, il est beaucoup parlé de loup-garou dans les récits paysans et de personnes transformées en loup-garou, puisque le loup-garou n'est pas, comme on pourrait le croire, un animal fantastique, il est une métamorphose d'humain en animal, et je le disais, ça peut être un renard-garou, ça peut être un chat-garou, on en a brûlé pour moins que ça. Alors, au XIXe siècle, dans tous les collectages, ah oui, j'avais mis Bête du Gévaudan. Bon, Bête du Gévaudan, vous savez, dans les années 1760, cette bête qui a tué dans le Rouergue, l'Écosse, tout un tas de gens... eh bien, à l'époque, dans certains témoignages, les paysans, eux, disaient qu'il était possible que ce soit un loup-garou. Voilà. Donc, ils le disaient, donc ils y croyaient. Alors, beaucoup de récits de garous au XIXe siècle, avec des appellations qui sont locales. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, en Touraine, on l'appelle l'Elbrou. dans le Berry, le Loup-Lérou, Loup-Brou, le Lébérou dans le Périgord, la Garache en Vendée, le Varou normand, le Billerou ou encore le Denvlaise breton. Enfin, chaque province, des fois même chaque canton a son petit nom pour les êtres surnaturels. Et je vous invite à compulser le deuxième volume de mon dictionnaire de la France, dictionnaire, comment il l'appelle, de la France merveilleuse, où j'ai fait des entrées à tous ces êtres surnaturels. Mais vous trouverez aussi des entrées générales qui renvoient à tout ça. Pub. Alors, dans les récits du 19e siècle, je ne vais pas tous vous les passer, mais je vous donnais juste quelques constantes qu'on retrouve dans ces récits. Alors, comment devient-on loup-garou ? Eh bien, on devient loup-garou soit parce qu'on va passer un pacte avec le diable, soit parce qu'on a un père loup-garou ou qu'on connaît un loup-garou qui va nous faire passer, qui va faire passer sa peau de loup à quelqu'un parce qu'il ne peut pas mourir sans avoir fait passer sa peau de loup. Donc ça, par exemple, je ne peux pas mourir sans avoir fait passer ma peau de loup, c'est quelque chose qui est relevé en Haute-Vienne, en 1855. Le pacte, on le retrouve un peu partout, hein, le pacte avec le diable. Mais c'est un pacte avec le diable, mais ce n'est pas un pacte avec le diable comme on pouvait l'avoir dans les siècles précédents, quoi. Le diable, il est quand même plus humanisé que ça. Il est même assez sympa avec les gens qui font des pactes avec lui parce qu'il se fait berner régulièrement. Alors, comment se transforme-t-on en loup-garou ? Là, on a des différences d'une province à l'autre. Là, j'ai quelques exemples. En Ille-et-Vilaine, par exemple, des paysans d'Étrelles disent s'être changés en billet-rou en se frottant avec une liqueur contenue dans des bouteilles qu'ils avaient trouvées dans des fossés. Dans le Périgord et dans la Charente-Maritime, un homme raconte qu'on est pris du mal et qu'on doit sortir de chez soi pour se précipiter dans une fontaine dont on ressort recouvert d'une peau à longs poils, de loup et parfois de chèvre. Dans le sud de la France, dans le Midi, on retrouve souvent ce lien entre le loup-garou et la fontaine. Et pas ailleurs, bizarrement. Aux premières lueurs de l'aube, il retourne se plonger dans la même fontaine où il rend sa peau. Dans le Gers, on dit que tout le monde peut se transformer à sa guise en loup-garou. Il suffit de déposer un drap de lit au centre d'un carrefour à minuit. Lorsqu'on retourne le chercher à l'aube, il s'est changé en peau, etc., etc. Et là, je vous renvoie au tome 1 de mon dictionnaire où est l'entrée loup-garou, parce que comme ce n'était pas un être surnaturel, je l'ai mis dans le 1. Mais vous le trouverez dans toutes les bonnes bibliothèques, ne vous inquiétez pas. On peut aussi tenter de chasser la protection. On a vu qu'au Moyen-Âge, la protection, c'était je fais traîner une ceinture derrière moi, je mets mon chat qui va me protéger, etc. Là, au XIXe siècle, on peut chasser le garou, mais pas avec des simples balles, bien entendu, sauf si on tire sur son ombre. Si on tire sur son ombre, on arrive à le chasser. C'est en Ariège qu'on raconte ça. Ou alors, dans les Vosges, par exemple, on dit qu'on peut chasser le garou si on porte sur soi un trèfle à quatre feuilles. Le trèfle à quatre feuilles étant un symbole chrétien, c'est celui de la croix, on comprend que là, on est dans quelque chose de magico-religieux. En Vendée, il faut ajouter trois morceaux de pain béni, béni aux trois messes de Noël. Dans le Jura, il faut mettre de la cire vierge, etc. Donc, il faut employer un moyen un peu magico-religieux. Et alors, on peut se délivrer du loup-garou et on peut délivrer un loup-garou, je vous le disais précédemment, en le faisant saigner. Alors, soit à la patte, soit pour certains au milieu du front. Mais faire saigner un loup-garou, c'est le libérer de sa condition de loup-garou. Ça, c'est quelque chose, c'est une donnée qu'on retrouve dans beaucoup de collectages en France. Alors, ces collectages sont des collectages du 19e siècle, puisque c'est à cette époque que toutes ces personnes de bonne volonté vont aller ramasser cette mémoire qui est en train de disparaître. On ne sait pas voilà, il y a eu pas mal de pollution entre-temps. Hein. Les gens ont bougé. On ne sait pas si... Il y a eu la littérature populaire qui s'est répandue dans les campagnes, les almanachs, etc. Donc, bon, on ne sait pas si c'est toujours très présent, si on le raconte parce qu'on pense que ça s'est passé. Mais en tout cas, voilà, ce loup-garou est encore très, très présent dans la mémoire paysanne. Et on continue néanmoins... On continue néanmoins à le craindre. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que vous avez sûrement des questions. Et... Enfin, peut-être. Et donc. Oui. Alors, on retrouve. Alors, ce rapport à la pleine lune, on le trouve qu'au XIXe siècle, dans quelques récits où la transformation, effectivement, se fait à la pleine lune. Mais la lune, on l'appelle le soleil des loups. Et donc, la pleine lune, elle est pas tant que ça présente dans les croyances populaires. Elle est présente, bien entendu, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que ce qui est présent, c'est surtout la nuit. Ce qu'apporte la pleine lune, c'est un rapport au noir. C'est-à-dire qu'il faut se dire que jusqu'à la fin du 19e siècle, les campagnes ne sont pas électrifiées. Donc... on a des chandelles, on a des lampes à huile et tout prend et la campagne est noire. Hein. Dans les premières décennies du XXe siècle, même la région parisienne est une campagne. La France est rurale très très longtemps, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on est dans une France essentiellement rurale. Et donc dans ces campagnes où il n'y a pas où tout est noir, donc on se réunit voilà, pour économiser la chandelle, l'hiver et le feu. Et donc on fait des veillées chez les mêmes personnes, ce qui permet d'être au chaud tous ensemble parce que la nuit tombe tôt. Mais le travail de la lune, ça va être les ombres qu'elle projette. C'est-à-dire que la pleine lune, elle crée de la lumière. Donc elle est assez peu favorable aux animaux surnaturels, aux êtres surnaturels. Parce que les êtres surnaturels, ils se montrent dans des lunes qui vont mettre des brumes bizarres. La pleine lune, on y voit assez clair. Alors oui, on retrouve hein, l'histoire du loup-garou à la pleine lune au 19e. Au Moyen-Âge, pas du tout. Dans l'Antiquité, évidemment, pas du tout. C'est quelque chose... Alors, bon, d'où ça vient, on ne sait pas trop. Il faut savoir qu'au 18e arrive... à partir du 18e siècle, il y a d'autres personnages qui vont arriver. Le vampire, par exemple. Bon, le vampire, on ne le connaît pas, il n'y en a pas en France. Voilà. Sauf qu'au 18e siècle, il y a les hussards qui vont se trouver dans l'Est et qui vont entendre des histoires de morts-vivants avec des rites très forts, funéraires, où on met un pieu dans le corps des morts pour pas qu'ils reviennent, parce que ça, c'est valable partout, y compris en France. Un mort, il est mort. Hein. Donc en France, on met un suaire, on coule le suaire, on met le cercueil, on cloue le cercueil, on le met sous terre, on met de la terre dessus, on met une pierre, et puis on dit, bon, toi, t'es là, t'y restes. Hein. Voilà. On t'aime beaucoup, mais les morts avec les morts et les vivants avec les vivants, c'est une crainte qui est partagée. Voilà. Sauf que là-bas, cette crainte, on va mettre le pieu si on se dit qu'il peut... parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qu'on enterre et qui ne sont pas vraiment morts. Quoi. C'est ça le problème à l'époque. Hein. Et donc, le mec, il se met à gratter. On dit, oh là là, c'est un mort vivant. Crac. Et là, le mec, il est vraiment mort. Et donc, du coup, avec cette mythologie du vampire, arrive l'idée de la pleine lune, là, pour le coup. Alors peut-être que cette idée de la pleine lune du vampire, c'est un Vosgien, c'est l'abbé Doncalmé dont vous avez peut-être entendu parler, qui est l'abbé de Champron. Et cet abbé Doncalmé, il va écrire le traité des apparitions et des vampires de la Moldavie, machin, tout ça, qui va être un vrai best-seller au XVIIIe siècle. Et du coup, cette idée va se répandre. Alors il est possible que ce soit lié. Voilà, on le trouve, mais ce n'est pas du tout systématique, du tout, du tout. Oui. Non, du tout. Du tout, du tout. Le vampire de l'Est, il peut contaminer, mais pas le loup-garou, il contamine rien du tout. Non, non. Moi, j'ai tendance à penser qu'on est dans un rite. Alors, en faisant... Alors, en laissant de côté l'antiquité gréco-romaine, Ovide, etc., mais à partir des témoignages qu'on trouve du XIIe jusqu'à l'orée du XVIe, je pense qu'on est dans un rite beaucoup plus ancien parce que, bon, on connaît, je termine là-dessus parce que je crois qu'il y en a qui attendent, on connaît assez peu de choses sur la mythologie des Gaulois. On en connaît un peu plus sur les Celtes d'Irlande, puisqu'on a des textes. Cela dit, on a retrouvé en France un calendrier à la fin du XIXe siècle, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le calendrier de Coligny. Et sur ce calendrier, qui est un calendrier gaulois, qui était en argile, qu'on a rassemblé, sur ce calendrier, on trouve donc la division du temps gauloise. Il date du IIe siècle. Et on y trouve des quelques fêtes. Et donc, on se rend compte que ces fêtes, c'est le cas pour la fête de Samhain, par exemple, où on trouve les trois jours de Samhainios. Donc, c'est la fête de Samhain, c'est la fête de la Toussaint. Et on sait par les textes irlandais que lors de ces fêtes de Samhain, les hommes se revêtaient de peaux de bêtes, de cornes, etc. C'était trois jours de fête de beuverie, de lien avec la nature, que les frontières entre les mondes du visible, de l'invisible, mais aussi les mondes de l'humain, de l'animal, se télescopaient. Voilà, c'était une... Et il est vraisemblable, parce qu'on en trouve encore trace en France dans les carnavals au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, et encore aujourd'hui, il y a des carnavals qui sont assez sauvages, où les hommes se revêtent de peau de loup, et du coup, enfin de peau d'animaux, ou de cornes, etc. Donc du coup, il se pourrait que, enfin moi en tout cas, c'est mon hypothèse, qu'on soit dans une... dans l'écume, dans ce qui reste, y compris un peu pollué, déformé, d'un rite assez ancien qui conduisait les hommes dans une initiation où on les envoyait dans la nature. Ça se fait dans certaines tribus, beaucoup de tribus primitives. Lévi-Strauss nous en a rapporté des exemples. Et voilà, et où finalement, voilà, on les envoie avec, et ils doivent se débrouiller tout seuls, vivre tout seuls avec. Ce serait un rite d'initiation assez fort qui se serait trouvé comme ça un petit peu transformé, qui serait resté et qui aurait donné ce mythe du loup-garou. Parce que je parlais d'Ovide. Ovide, c'est le premier siècle de notre ère. À la même époque, il y a un autre savant latin qui s'appelle Pline, qui a écrit l'histoire naturelle. Et Pline parle du loup-garou et se moque d'Ovide en disant « Mais comment ils ont pu croire à une pareille ineptie ?» Voilà. On est au premier siècle. Ça veut dire que tout ça vient d'un petit peu plus loin et qu'on est dans du rite animiste, ce qui, moi, m'étonnerait pas du tout, du tout. Alors, dans les récits populaires, il peut pas y avoir de balles d'argent parce qu'on est dans les campagnes et l'argent on n'en a pas. Donc voilà, non, ça c'est une mythologie qui n'est pas une mythologie populaire, qui est liée à la mythologie littéraire, on va dire. Non, il faut que ça soit béni, il faut voilà. Oui, mais moi, je travaille sur les croyances populaires et tout ça est trop savant pour eux. Ils n'associent pas la lune à l'argent, ils l'associent aux cultures. Voilà. Pour eux, ce qui est important, c'est la lune montante, la lune descendante. La pleine lune est importante pour certaines cultures. Et la lune noire, la lune rousse, les saints de glace, hein, c'est en ce moment. Voilà, tout ça est important et lié à la lune. Mais il y a des lunaisons. Mais c'est tout. Et la lune, elle était importante surtout parce que les anciens calendriers étaient lunaires. Et puis ils sont devenus moitié lunaire, moitié solaire. Celui qu'on a retrouvé à Coligny, il est les deux. Il est déjà moitié lunaire, moitié solaire. Et donc, mais tous les calendriers anciens étaient liés à la lune. Donc la lune, c'est plus... voilà, faut pas oublier qu'on est dans des cultures populaires où il n'y a pas de sous, où il faut se nourrir. Donc tout est lié à l'agriculture, à la vie... voilà, à la vie collective. C'est... Et jusqu'à cet art, moi, j'ai eu l'occasion de dire de nombreuses fois, et je vais continuer encore, qu'on retrouve tardivement, jusqu'au début du XXe siècle, les racines païennes de la France qui seront christianisées, mais qui sont toujours présentes. Non, non, ça ne fait pas partie. Alors moi, je travaille, mon corpus de travail, c'est le domaine français, voire francophone, bien que je n'ai pas traité, parce que c'était la même chose, la Suisse, la Belgique, on a à peu près, enfin, tous nos territoires communs, en tout cas, voilà. Mais non, c'est l'argent, ils n'en ont pas, hein. Très peu. Ben... Comment les choses arrivent, on n'en sait rien du tout, quoi. Il suffit qu'il y ait un... dans la littérature fantastique, voilà, que ça se présente comme ça. Ou qu'il y ait cette confusion avec le vampire, c'est possible, parce qu'il y a eu beaucoup d'écrits sur le vampire à partir de ces vampires de l'Est. Nous, on n'en avait pas du tout, on n'a pas de récit de vampire. On n'a pas de morts vivants, d'ailleurs. On a des morts... des revenants, des retournants, des gens qui reviennent, beaucoup. Des fantômes aussi, sous forme brumeuse, tout ça, mais pas de mort vivant. Ce qu'on appelle le mort vivant, c'est un mec qui... Voilà, absolument. Le zombie, ça vient du vaudou. Voilà, je crois qu'il faut laisser la place, parce que, voilà. Et donc, merci beaucoup à vous, et puis...